Les interviews de Visionary Marketing pour tout savoir sur l'innovation, le marketing, les startups et bien plus encore.
Alors je suis avec Mathias Beraya à Lazarus, vous êtes le patron de Bonial France. Alors Bonial, vous faites essentiellement un travail autour des prospectus de supermarchés. Vous pouvez nous expliquer ça peut-être
Oui, bien sûr. Donc Bonial est un portail de consommation sur le web, hein, bonial.fr et sur les smartphones et les tablettes, qui permet aux consommateurs de consulter tous les prospectus et les catalogues qui se trouvent autour de sa position. Donc très concrètement, on va être localisé par exemple à Lille et on va voir autour de soi les supermarchés alimentaires ou les grandes surfaces spécialisées qui proposent des offres et des promotions sous forme de prospectus. On va pouvoir passer en revue toutes les pages qui se trouvent dans ces prospectus. Notre modèle économique est tourné vers les enseignes. C'est un modèle à la performance, au nombre de fois qu'on a réussi à déclencher une consultation de ces catalogues par un internaute ou un mobinaute qui se situe autour du point de vente.
Alors, la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui, c'est cette étude que vous avez réalisée avec Opinionway cet été, oui, sur 509 acheteurs d'articles de sport, qui va nous permettre, on va le voir dans 5 minutes, de mettre des chiffres derrière l'importance de la recherche en ligne et aussi du fameux Web to Store. Mais avant tout, pourquoi les articles de sport ?
Bien, on avait conduit l'étude il y a environ 12 mois sur le premier réflexe des Français en matière de préparation d'achat et on avait comparé différents secteurs, l'électronique, les meubles et la décoration, les articles de sport, l'alimentaire et les articles de bricolage. Et on avait trouvé que derrière l'électronique, qui était le secteur le plus digitalisé, à environ 65% de premier réflexe, eh bien on trouvait les articles de sport qui venaient juste après à 51% de premier réflexe de consultation en ligne. Et c'est ça qui nous a effectivement décidé à aller plus loin, à creuser ce secteur et à apporter des chiffres objectifs aux décideurs de la grande distribution dans le domaine du sport.
Alors, premiers enseignements sur cette étude, peut-être sur les profils déjà pour commencer.
Oui, alors ce sont des profils que Opinionway a identifiés comme étant un peu plus jeunes, également un peu plus fortunés, un peu plus diplômés que la moyenne de la population française.
Et alors, plus on descend en CSP à l'intérieur de cet échantillon, plus on trouve des comportements qui sont différents de l'autre extrême. Alors, quels sont-ils exactement ces comportements ?
Oui, alors les CSP+, sans surprise, vont avoir un panier annuel moyen qui va être plus important, à 446 € au lieu de 309 pour la moyenne des Français. En revanche, effectivement, dans les catégories les plus modestes, on va trouver des comportements qui sont différents, notamment une part du textile qui est vendue de manière importante dans les grandes surfaces de distribution spécialisée de sport notamment. Eh bien, cette part du textile va être plus importante par rapport au total dépensé par ces ménages en matière de produits vestimentaires. Donc les ménages les plus modestes ont tendance à dépenser plus en matière textile dans les magasins de spécialisés de sport.
Effectivement, et donc les foyers qui gagnent moins de 1 000 € par mois ont même tendance à dépenser jusque près de la moitié de leur budget sur des articles type streetwear, de leurs vêtements, mettons. D'accord. Donc une forte motivation, soit pour certains pour faire du sport, d'autres pour s'habiller, avec des besoins différents, d'un côté un plus de l'envie et de l'autre côté plus du besoin. Et là, c'est là qu'on arrive sur le sujet qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est les recherches avant l'achat. Alors, ces recherches avant l'achat, est-ce qu'elles sont importantes déjà en général ?
Alors, elles sont importantes puisque dans 82% des cas, les achats ont effectivement été précédés d'une phase de recherche, ce qui est un chiffre très important. On l'avait évalué dans d'autres secteurs comme le bricolage, environ 70% pour vous donner un petit peu une idée et un benchmark. Donc, on a effectivement des achats de sport qui sont très soigneusement préparés par les Français.
Voilà, et ce temps de préparation, il est à peu près d'un tiers au moins.
Voilà, il est globalement pour la, on va dire les deux tiers des Français relativement court, c'est-à-dire qu'il va se compter en jours, entre un jour et une semaine, et on va voir ensuite des achats pour le deuxième tiers, le dernier tiers des Français, et bien qui va un cycle d'achat qui va se compter en quelques semaines sur des achats peut-être plus techniques ou un peu plus onéreux, sur lesquels effectivement on va prendre un peu plus de temps. Mais globalement, le cycle de préparation d'achat dans le sport est relativement court.
Alors, premier étonnement, dans ces recherches effectuées avant l'achat, l'aspect technique, certes important, mais il n'arrive que à la troisième place des raisons de recherche.
Absolument, oui. Le marché réagit avant tout au prix et aux promotions. Alors, c'est une composante, je pense, assez lourde de notre économie en ce moment, où les budgets des Français sont sous contrainte. Et on retrouve effectivement cette dimension prix qui revient de manière massive, hein, puisque 80% des Français nous disent rechercher des prix ou des promotions de manière systématique ou fréquente, ce qui est quand même très 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 tranché comme évaluation. Les informations techniques viennent de manière relativement fréquente aussi, hein, à environ 60%, mais elles reviennent néanmoins après.
Et finalement aussi, autre chose qui m'a particulièrement frappé dans cette étude, c'est la faiblesse des recherches en termes de démonstration vidéo. Finalement, la vidéo, c'est pas tellement ce qui passionne les utilisateurs.
Alors, sans doute dans d'autres secteurs comme le bricolage, où effectivement on a plus besoin de savoir comment s'y prendre pour monter un produit ou pour réaliser telle pose d'un objet, les vidéos sont revenues de manière un peu plus fréquente. Dans le sport, en général, on pratique le sport que l'on achète, donc on a relativement peu besoin de démonstration, on sait à quoi ça sert, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la vidéo ne vient qu'en dernière position.
Alors, autre constatation choc, mais qui pour nous nous étonne pas tellement, c'est que les sources digitales sont très importantes à l'intérieur de ces recherches.
Absolument, oui. On voit effectivement une part du digital monter de plus en plus vite. Et 76% des sportifs ont consulté au moins une source digitale avant de se rendre dans les points de vente. Alors, les sources digitales ne sont pas exclusives, hein, les gens consultent encore, et heureusement, des sources non digitales, mais on voit néanmoins que les points de contact sont quasiment deux fois plus nombreux sur le digital que sur les sources traditionnelles. Hein, donc pour moi, on a effectivement un poids du digital qui devient extrêmement prépondérant par rapport aux sources traditionnelles.
Alors, première chose, quand on regarde le détail des sources d'information, la première, c'est que les moteurs de recherche arrivent quasiment au même niveau que les informations disponibles dans les magasins de sport. Déjà, c'est la première constatation.
Oui, absolument. Alors, les informations disponibles dans les magasins de sport reviennent néanmoins comme une source plébiscitée. On va le revoir un peu plus tard dans l'étude. Mais le fait que des grands distributeurs aient beaucoup investi dans la formation, favorise effectivement cet état de fait. Les moteurs de recherche viennent ensuite évidemment traditionnellement comme étant une source très appréciée également. Et puis les prospectus, hein, que ce soit les versions papier ou les versions en ligne, sont toujours très précieux pour notamment beaucoup de consommateurs qui veulent un peu dégrossir le sujet et se faire une première idée de ce que les uns et les autres proposent. Effectivement, ces prospectus sont revenus de manière fréquente dans l'étude.
Alors, c'est assez logique, effectivement, puisque le premier critère, c'est le prix et la promotion. Ouais. Par contre, ce qui est plus étonnant, et très étonnant, c'est que les catalogues et guides et prospectus en ligne arrivent quasiment au même niveau que les catalogues, guides ou prospectus papier.
Ouais, alors... On a encore une puissance du marketing papier qui est, j'allais dire, sans commune mesure avec les prospectus en ligne, parce que des dizaines de millions sont distribués chaque mois. Mais les prospectus en ligne ont ceci de particulier que un consommateur ne tombe jamais sur un catalogue ou un prospectus en ligne par hasard. Il tombe dessus parce qu'il est allé le chercher. Et donc c'est ça en fait que les Français nous disent lorsqu'ils disent apprécier ces médias-là. Eh bien, ils apprécient le fait qu'ils aient été chercher l'information qui les intéresse, soit sur le site d'un distributeur, soit sur une plateforme qui regroupe les prospectus et les catalogues comme Bonial. Et c'est ce mode pool qui, en fait, est distingué par les consommateurs.
Et alors là, donc, on a une bizarrerie sur le marché de la distribution, c'est que les dollars du marketing vont plutôt au papier, alors qu'ils devraient commencer aussi à se diriger plus massivement sur le numérique.
Oui, alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment en vouloir aux distributeurs. En fait, dans l'histoire des médias, je pense que les annonceurs ont toujours dû attendre l'essor d'un média avant de pouvoir y investir de manière assez intense. Aujourd'hui, je pense qu'en tout cas dans le secteur du sport, c'est assez clair. Les sources digitales sont plus nombreuses et effectivement, je pense qu'il y a des leçons à en tirer pour le mix marketing qui doit effectivement, au fur et à mesure des années, pencher de plus en plus lourd vers les sources digitales, sans doute au détriment des sources traditionnelles.
Alors, deux constatations qui m'ont encore choqué à l'intérieur de cette planche sur les sources d'information. En dehors de la vidéo, ça on l'a déjà expliqué. Le premier, c'est les blogs et les forums spécialisés qui semblent être peu utilisés. Ouais. Et puis le dernier, c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est peut-être plus logique d'une certaine manière.
Oui, alors les blogs, je pense qu'il y a pour le coup les forums spécialisés, je pense qu'il y a vraiment un effet de mode. Il y a eu la période des forums, j'allais dire, entre les années 2000 et 2005, on va dire, ou 2007. Aujourd'hui, les forums spécialisés où on échange des avis sont quand même moins populaires auprès des internautes. Au détriment, en fait, des réseaux sociaux qui, pour le coup, ont explosé depuis les années de 2006-2007, mais qui apparaissent comme des espaces où on converse, où on échange, mais pas vraiment comme des espaces transactionnels où on va se renseigner de manière très proactive sur les articles que l'on compte acheter dans les prochains mois. Donc je pense que c'est ça qui ressort dans l'étude.
Et à l'inverse aussi, si les blogs sont peu utilisés alors que les gens cherchent beaucoup l'information, c'est qu'on peut peut-être aussi se poser légitimement la question de savoir si on y a mis les informations qu'il fallait et surtout si les marques, et notamment les marques de distributeurs, ont véritablement bien investi cet espace ou non.
Absolument.
Alors le point suivant, c'est celui que tout le monde attend. On en parle depuis des années et on cite des chiffres plus ou moins farfelus. Vous avez véritablement mesuré si les personnes qui consultaient des sources digitales allaient consulter des sources non digitales et s'ils achetaient dans les sources digitales, s'ils allaient acheter dans les sources non digitales. Alors qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ce qu'on voit effectivement de manière très claire, c'est que si la préparation d'achat se situe majoritairement en ligne, comme on vient de le dire, la transformation, elle se fait encore très majoritairement en magasin, avec néanmoins en magasin plein de choses qui se passent malgré tout. Un rôle du vendeur qui a notamment été distingué par l'étude comme étant effectivement très important, et puis des acheteurs qui parfois, dans les rayons, changent d'avis. Le fait qu'on ait des grandes surfaces, notamment spécialisées dans le sport, qui soient de grand format, eh bien, favorise le fait aussi que de changer d'avis au fil des rayons. Mais en tout cas, l'essentiel effectivement de ce marché se situe encore, et à mon avis pour de longues années, dans les magasins physiques.
D'ailleurs, une des épouvantails à moineaux de la distribution, c'est ce qu'on appelle le showrooming, c'est-à-dire les gens qui comparent les prix en magasin et qui achètent en ligne. Et vous avez démontré que c'était une fable, en fait.
Absolument. En tout cas, sur ce marché, il est ressorti que lorsque les gens changeaient d'avis, c'était très marginalement parce qu'ils avaient comparé le produit depuis leur smartphone et trouvé moins cher ou mieux à un autre endroit, puisque ce chiffre est revenu à seulement 5% des gens qui nous disaient changer d'avis en magasin. Donc c'est l'explication la plus marginale. Je pense que lorsque les gens sortent leur smartphone aujourd'hui pour se renseigner sur un produit qu'ils trouvent en magasin, c'est avant tout pour aller consulter le site du distributeur dans lequel ils se trouvent, tout simplement. Et donc, c'est, encore davantage de l'eau au moulin de ceux qui voient effectivement cette influence positive du digital sur les points de vente que l'on voit dans cette question.
Et alors, dernière conclusion, on va s'arrêter là. Quand un utilisateur achète en ligne, il achète aussi dans des magasins. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour les distributeurs.
Oui, absolument. En fait, les plus gros acheteurs sont aussi les plus gros acheteurs en ligne sont aussi ceux qui achètent le plus en magasin. Et ça, c'est assez rassurant. Et on voit que d'une manière générale, les Français aiment bien la diversité, puisque sur un secteur où il n'y a quand même pas énormément d'acteurs, comme le sport, eh bien, ils se renseignent en moyenne dans 3,5 enseignes différentes chaque année et ils réalisent leurs achats dans 2,9 enseignes différentes. Donc, il y a quand même cette appétence à changer de crèmerie, sans doute en fonction des prix, de l'actualité, et on l'a dit tout à l'heure, des promotions qui semblent effectivement être un driver important du marché.
Les interviews de Visionary Marketing. Pour tout savoir sur l'innovation, le marketing, les startups et bien plus encore.